Bonsoir, merci d'être venu vous confiner dans notre petit couloir exigu. Ça en vaut la peine. Nous allons passer 4 heures ensemble. Voilà. Donc, on est très heureux d'accueillir Julie Banzé pour le livre À tâtons. Donc, À tâtons, c'est la relation de deux femmes autour de la maladie d'Alzheimer. Pour moi, je trouve que c'est aussi un livre qui est comme une histoire d'amour dont les personnes se connaissent au début et dont la relation se modifie au fur et à mesure de leur transformation personnelle à travers ce qu'elles vivent ensemble. Pour commencer de manière un peu classique, est-ce que tu veux bien te présenter pour dire aussi quel est ton parcours, si c'est ton premier exercice à l'écrit ou pas, et pourquoi ?
Moi, j'ai toujours eu de l'écrit, je crois. Et donc, je pense que j'ai toujours un peu écrivaillé pour comprendre un peu ce qui se passait dans ma tête, déjà. C'est déjà compliqué. Et puis, dans la vie en général. Et ensuite, au fur et à mesure que la vie se transversait, j'écrivais, quoi. Donc, ça, l'écrit est là depuis... Ouais, depuis gamine, vraiment, quoi. Après, de le publier, d'en faire un objet qui se transmet et dont on parle là dans une librairie avec des gens qu'on connaît quand même un petit peu, etc. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai déjà écrit des textes qui ont été publiés, mais sur d'autres sujets liés à Alzheimer aussi, d'ailleurs, pour l'un d'entre eux, mais liés au yoga, parce que moi, par ailleurs, c'est mon métier. J'enseigne le yoga à des personnes qui sont... parfois en grande forme et parfois en des formes plus vacillantes. Donc j'ai écrit déjà dans des textes qui pourraient dire plus pas scientifiques, parce que c'est pas scientifique, mais plus formel. De publier un texte comme ça que j'ai travaillé. Celui-là, ça fait très longtemps que je travaille dessus aussi. Ça fait 15 ans qu'il est en élaboration. Que dire d'autre ? Je ne sais pas.
Je ne sais pas. Tu lis beaucoup, beaucoup, beaucoup par toi-même. Enfin, tu évoques plusieurs lectures à la fin du livre qui est là. Et on sent que c'est quand même pétri de références au-delà de celles que tu cites. Et est-ce que tu as eu un bête comme question, mais je me la suis sincèrement posée, je crois. Est-ce que tu as eu un espèce de modèle, enfin, tu vois, ou est-ce que c'est ton écrit qui a formaté le livre, ou est-ce que un livre en particulier a fait écho, notamment par rapport au choix de la forme, sur le choix de la narration aussi avec le tu et le je? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu comme ça, ou est-ce que c'est aussi dans d'autres ouvrages que tu t'es dit, tiens, cette technique correspond à mon envie, à mon expression?
Alors, c'est sûr que je l'ai lu ailleurs de nombreuses reprises. Je ne saurais pas dire où précisément. C'est pas en référence à un autre ouvrage. Après, le travail sur les pronoms, il est venu assez vite, en fait. À partir du moment où c'est devenu une matière un peu extérieure, parce qu'au départ, c'était juste comme on crache sur du papier pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. À partir du moment où c'est devenu une matière qui n'était pas forcément à publier, mais qui devenait quelque chose qui m'était un petit peu plus distancié, le travail sur ces pronoms, il s'est imposé assez vite, parce qu'il y avait cette question de savoir comment est-ce que je parlais à la place de la personne qui s'enfonçait dans la maladie. Ce qui est... une question, comment on parle à la place de quelqu'un d'autre? C'est une question qui, pour moi, éthiquement, est compliquée. À partir du moment où on écrit sur une situation qui n'est pas la nôtre, moi, je considère qu'on a le droit de le faire et qu'il faut le faire, que ça sert à ça aussi, la littérature, de parler de lieux qui ne sont pas forcément ceux que nous, on traverse. Mais par contre, quelle est notre légitimité pour parler de ça, et comment est-ce qu'on le fait avec subtilité, sans rentrer dans des choses tranchées, etc. Donc le pronom me permettait vaguement de contourner ça, de distancier deux voix. Et puis au fur et à mesure du temps, apparaissait aussi que finalement ces deux pronoms, c'était la même voix, parce que il y a un jeu d'une narratrice et un tu de sa mère, mais finalement le tu, c'est quand même le tu projeté de la narratrice sur sa mère. On ne saura jamais ce que c'est que l'autre, en fait, et au-delà de la maladie, hein, qui est un autre en face de nous, on ne le sait pas. Et ça, ce petit espace, cette petite distance, je pense que c'est ça qui m'intéresse, en fait. Et donc, ce « tu », il la place, cette petite distance.
Alors, je m'excuse, c'est vrai que du coup, pour les personnes qui... Mais peut-être, enfin, pour les personnes qui n'auraient pas lu le livre, donc effectivement, le « tu » fait référence à la mère, qui est la personne qui est malade. Le « je » est incarné par le personnage de la fille. C'est quand même assez juste ce qui est décrit par la mère dans cette utilisation du « tu ». Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire aussi. Mais le, si, là où je voulais en venir, c'est qu'il y a beaucoup d'ouvrages tout autour de vous qui relatent justement des relations, des expériences en ce sens-là, où tout à l'heure je tenais à vous présenter ce livre comme le livre, un peu comme un livre, une histoire d'amour entre deux personnes. Ce qui est très intéressant, c'est que très souvent dans les autres ouvrages, on a uniquement le point de vue de la personne témoin. Et que là, ce « tu » te donne la liberté de représenter aussi la personne malade, ce que je n'ai pas vu dans les autres livres abordant la maladie. À propos de la maladie, tu utilises quand même un vocabulaire très précis. Ce sont des notes qui ont été prises au fur et à mesure des 15 années ou que tu as accumulé, ou tu t'es documenté quand même sérieusement sur cette question.
C'est pas la peine de faire d'en faire mystère, hein. Moi, ça part d'une situation que j'ai vécue avec ma mère qui a été longuement malade. Et donc moi, la première semence de ce bouquin-là, c'est d'essayer de comprendre ce qui m'arrivait. Donc d'essayer de comprendre ce que c'était que cette maladie-là. Donc toutes ces notes très techniques, etc., elles accompagnaient cette espèce d'empêtrage qu'est le début de où tout ce qui nous semblait être acquis. Déjà par rapport à une relation maternelle, mais dans ce que c'était qu'un être humain est en train de se déliter complètement et on n'a plus de repères. Et donc moi j'ai été chercher des gens qui en parlaient de leur propre voix, des personnes malades qui ont fait récit, des personnes qui ont témoigné de ça en tant qu'accompagnants, des romans, des fictions, des Annie Ernaux qui parle de sa mère, Bobin qui parle de son père, des choses où je me retrouvais plus ou moins, des choses qui me paraissaient plus distantes de moi. Donc il y a tout un travail de documentation et ensuite il y a les rencontres. En fait, c'est pas l'histoire que j'ai vécue moi. Il y a énormément de choses qui ne sont pas vécues. Ma situation familiale n'est pas la situation décrite dans le livre, etc. Mais à partir de cette base-là, aussi bien vécue que documentée, que des histoires qu'on raconte et que n'importe quoi, se retrouver dans une crise de la vie, au chômage, quelqu'un qui nous parle d'une situation qui l'a bouleversée. Ben, en fait, toutes ces crises nous mettent dans ces situations. Il faut tout d'un coup, paf, il y a le cube, il y a la tour de cube qui s'effondre et il faut retrouver une autre solution. Donc, ce document, voilà. Peut-être que je réponds un peu en dehors de ta question. Si c'est vraiment sur la question médicale de la maladie, il y a beaucoup c'est documenté aussi parce que, en effet, je l'ai traversé. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on essaye de comprendre comment ça marche. Mais après, c'est devenu un espèce de... On peut pas... C'est pas un guide pour voir comment ça va se passer dans le début d'un Alzheimer. Parce que si on regarde les rendez-vous médicaux, etc., par exemple, c'est pas juste. C'est un peu... C'est transformé. C'est un peu malaxé. Les termes apparemment peut-être très exacts ne le sont sans doute pas, et je ne sais pas s'il y a des médecins ici, mais je suis pas sûre que ça soit tout à fait juste.
En fait, le livre est constitué assez... Moi, j'y vois trois grandes parties, mais c'est beaucoup plus complexe que ça dans sa composition. Mais toute la première partie, on a aussi sont précisées des informations spatio-temporelles, les gens qui sont rencontrés, et ces indications sont une première forme de... c'est ça qui est très réussi dans ton ouvrage, c'est la façon dont tu transformes les choses... comme représentation vraiment poétique de ce qui est en train d'advenir dans la relation, avec les indications qui deviennent de plus en plus floues au fur et à mesure où on avance dans le dans le livre, c'est, et tout en étant quelque chose qui ne relève pas de l'anecdotique. Il y a une page qui est, où il y a beaucoup de la violence que le personnage de la fille peut ressentir dans ses relations au tiers lorsqu'elle évoque le fait qu'elle s'occupe de sa mère malade d'Alzheimer. Le personnage n'est pas toujours justement uniquement dans la prise de notes, et du coup c'est pas un livre d'anecdotes sur Alzheimer. Il y a quand même un peu d'humour, même si à un moment tu écris il n'y a plus d'humour. Il revient après quand même.
C'est pour voir à quel point le lecteur est persévérant quand même. C'est important.
Mais c'est aussi, c'est ce que tu évoques à l'instant. C'est effectivement, c'est pas un manuel, mais on voit quand même très finement ce que ça représente. Et c'est pas un recueil d'anecdotes. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important, parce que je crois que tu arrives à montrer à quel point cette relation change. Et il m'a fallu moi-même quand même, je l'avoue, plusieurs lectures pour avoir la saveur de la complexité de la structure. Donc vous allez pouvoir le relire, je vais vous donner des pistes, ce qui vous permettront de repérer plein de choses. C'est aussi un livre qui permet avec lequel on peut se permettre une lecture non linéaire. En tout cas, moi, c'est une parade dont j'ai eu besoin pour réussir à absorber la violence contenue dans certaines parties du livre. Après, voilà, ce que je vous livre est très subjectif, mais ça se veut aussi être une critique un peu objective, puisque c'est permis par la complexité de ta structuration. Vous allez avoir de manière récurrente l'évocation du marron. On finira là-dessus tout à l'heure, mais l'évocation des mots, la façon dont les mots, avec une image qui m'a beaucoup plu, ou la litanie de la personne posant des questions. Tu parles à un moment du fait qu'elle est que tu la vides de sens pour qu'elle ne devienne qu'un son. Et j'ai trouvé ça très, très beau, cette manière d'évoquer à nouveau la transformation de la relation. Et puis, il y a tous les petits papiers, les livres découpés, les mots, les listes, voilà. On demandera tout à l'heure si tu veux bien, Mireille, lire un extrait. Donc tu peux te préparer si tu as ton exemplaire. Cette structuration-là, c'est quelque chose que tu as retravaillé à partir... T'es partie d'une matière brute et tu t'es dit, bon, je veux une construction... je veux cette construction-là. Enfin, je veux dire, est-ce que tu as beaucoup retravaillé la façon dont ton livre est composé tel qu'il est édité aujourd'hui ?
Non, ça s'est fait comme ça. C'était magique.
Non, mais...
j'ai travaillé ça continuellement, quasiment pendant 15 ans. Je pense que c'était un espèce de... Et c'est ce que j'ai essayé de traduire là-dedans aussi. C'est comment est-ce que l'écrit, la littérature, les mots peuvent nous sauver, en fait. Ça paraît peut-être un peu fort, mais en fait, vraiment, quand on est dans des temps où tout s'éparpille, comment, soit en écrivaillant, hein, soit en lisant, bah, comment est-ce que ça nous donne des repères, en fait, comme des balises dans ce qu'on doit traverser. Donc ça a été une espèce de... comme si je m'accrochais à de la terre, quoi. Je m'accrochais aux mots. Donc j'ai pas arrêté de retravailler ça de façon plus ou moins distanciée. Deux fois, j'ai essayé de faire un polar avec. Tout le monde s'entretuait. C'était vraiment... c'était hyper joyeux. Maintenant, c'est hyper gai. Ça a pas l'air. C'est pas... Mais en plus, je rigole, mais pour moi, c'est pas un livre triste, en fait. Parce que, alors évidemment, il y a cette traversée, et il m'importait d'aller dedans, parce que ce que je voulais essayer de voir, bah, je peux dire ça a posteriori, parce que quand j'étais dedans à le travailler, je savais pas très bien ce que je voulais faire, mais ce qui me semble, c'est que c'est comment on traverse donc une épreuve. Là, en l'occurrence, une épreuve un peu où on sait qu'on va pas s'en sortir. Ce truc, on te balance le mot d'Alzheimer. Bah, c'est foutu, quoi. Il n'y aura pas de retour en arrière possible. Mais en même temps que moi je vivais ça, j'avais l'impression que ça me parlait aussi de comment est-ce qu'on traversait le capitalisme, comment est-ce qu'on traversait la précarité, comment est-ce qu'on traversait... Ça me parlait de comment est-ce qu'on était dans des situations qu'on ne pouvait pas dépasser. D'ailleurs, ça commence avec Thatcher, il n'y a pas d'alternative, et parce que c'était ça, c'était comment est-ce qu'on... Bah, il faut bien y aller pourtant. Et donc... pour traverser ça, eh ben, on s'accroche à la langue, on s'accroche et on traverse ces étapes. Et donc au début, il y a le temps qui se délite, quoi. Et c'est aussi pour ça, les rendez-vous médicaux, c'est tellement un enfer logistique, cette maladie. On n'y comprend rien, c'est kafkaesque, quoi. On ne sait plus où on est, on prend des rendez-vous, ils sont pas, c'est pas le bon médecin, on n'y comprend plus rien, la mémoire se délite, le médical aussi, tout part dans tous les sens, il y a des serpillères partout, enfin c'est dégueulasse. Et puis après, ben, y a autre chose qui émerge, enfin si on laisse émerger. Et je pense que si j'ai été au bout de ce truc-là, c'est aussi que ça me peinait d'entendre des personnes parler de la grande vieillesse ou de la démence comme uniquement une perte, et ou alors comme quelque chose d'exalté. Il y avait aussi ce discours, ah, oh, magnifique, on va rencontrer la lumière, ce qui était pour moi aussi odieux, parce que rencontrer la lumière en traversant ça, je sais pas, enfin c'est pas à nous de le dire, peut-être que la personne malade considère que c'est de la lumière, mais nous on le saura jamais. Mais s'il y a un entre-deux, entre cette magnifique lumière exaltée et cette déchéance absolue qui fait qu'on n'est plus un être humain, il y a quelque chose qui est que, notamment dans la relation, si on laisse émerger quelque chose, mais ce que tu disais, dans un couple qui doit réinventer quelque chose à un moment donné, ou dans une situation où il faut réinventer, ben, par ce qui se passe entre des humains, et ben, quelque chose émerge qu'on ne pouvait pas prévoir. Et ça, c'est très émouvant, c'est terrifiant en même temps, parce qu'on se dit mais ça ne va peut-être pas émerger, mais en fait ça ne peut qu'émerger si on laisse sincèrement quelque chose se faire d'une alchimie entre des humains qui sont là. Je dis ça sans mièvrerie, hein. C'est pas une espèce de tendresse lumineuse, c'est juste quand on si on va jusqu'au bout de cette sincérité d'une relation, en mettant ses tripes là-dedans et en y allant en ayant peur de ça aussi, eh ben, émerge quelque chose qui est de la sincérité en face aussi, quoi. Et ce qui est, c'est pas une écorce vide d'une personne en fin de vie, c'est quelque chose qui se passe et on ne sait pas ce que c'est, par contre.
Est-ce que tu peux expliciter du coup le marronnage?
Alors ce concept, il vient à la base, c'est un terme qui vient des plantations esclavagistes, où des esclaves s'échappaient de la plantation. Et alors soit quelques heures et ils étaient rattrapés, souvent châtiés évidemment plus ou moins gravement, soit ils s'échappaient plusieurs jours, soit ils s'échappaient pour toujours, puisqu'il y en a qui ont réussi à créer des sociétés qui ont réussi à perdurer pendant des dizaines, voire des centaines d'années, et qui continuent. Il y a encore des gens qui se disent héritiers de ces sociétés marronnes. Et donc, du coup, ils partaient et ils arrivaient soit, en tout cas, à prendre l'air pendant une heure, deux heures, des années. Et des fois, ils revenaient, ils se faisaient tuer. Mais en fait, ils n'avaient pas le choix. Il fallait partir. Comment ne pas partir de cet enfer-là? Je ne suis pas du tout une experte, hein, de l'histoire des marrons. Mais ce concept a été aussi repris notamment par Françoise Vergès, qui souligne dans ses écrits sur le féminisme et décolonial contemporain. Comment est-ce que ce concept de marronnage peut aussi être utilisé, notamment face au capitalisme, pour voir comment est-ce qu'on peut, dans une société qui apparemment ne nous donne pas d'alternative, comment est-ce qu'on peut inventer d'autres alternatives, c'est-à-dire dans une société où l'esclave est considéré, la plantation de canne à sucre est considérée comme la seule possibilité pour l'esclave qui a un maître, etc. Il se barre et il y arrive. Comment est-ce qu'on peut inventer d'autres solutions? Donc ça, c'est pour moi une pensée hyper vivante, parce qu'elle est radicale, en même temps elle est dans la bouche de Vergès hyper intéressante et vivante, parce que elle parle de ce qui peut être créé, de ce qui peut être inventé joyeusement au sein de situations de grande précarité, de grandes situations de difficultés actuelles, quoi. Et donc, en le confrontant à ce que c'est que cet enfermement, modestement, hein, sans vouloir m'être collée, c'est pas la même chose. On peut pas évidemment comparer la maladie d'Alzheimer d'une femme qui vit même dans un certain confort de vie avec la vie des esclaves des plantations négrières. Mais par contre, de voir comment est-ce que dans cette situation, on peut nous marronner. Est-ce qu'on peut se reprendre ce terme pour marronner dans notre existence? Alors, quels sont nos outils pour ça? Et Patrice Chamoiseau, lui, il en parle, qui est donc un auteur antillais, il en parle aussi de façon... il reprend ce terme pour voir comment est-ce qu'on peut le faire par la création, par d'autres inventions économiques, sociales, environnementales. Donc voilà, ce terme, il revient beaucoup. Mm-hmm. Au départ, c'était le titre, mais on s'est dit que ça ne serait pas forcément bien perçu.
Oui, puis moi je trouve que c'est ça, c'est pas une thèse sur le marronnage non plus. Mmh. D'ailleurs, voilà, tout ça traverse le livre, mais c'est pas dogmatique du tout, quoi. Ça fait partie de la nourriture littéraire de la personne qui essaye de tenir. Mmh. Voilà. Et un petit peu de l'identité politique de la personne qui est malade aussi, quand même, qui est très présente. Toutes les allusions littéraires, elles sont présentes comme ça pour donner de l'épaisseur à ces deux personnes qui sont pas juste une malade et une aidante, quoi, qui ont tout un oui, je sais pas d'autres mots, une épaisseur culturelle et sociale. Donc il y a des petites échappées, quand même. Il y a la maladie, puis il y a des petites échappées comme ça, soit dans les littératures, soit dans Paris. Il y a quand même quelques échappées.
C'est vrai qu'elles s'échappent. Ouais.
En tout cas, c'est un parallèle qui est très, très positif. Je suis d'accord avec toi. Je trouve pas que ce soit quelque chose de triste. C'est quelque chose de violent, mais de pas forcément triste. Avant que vous posiez les questions, si Mireille, tu veux bien nous faire l'honneur de lire un passage.
J'ai choisi justement un passage sur la relation. Parce que j'ai été bouleversée par cette relation qui peut prendre des formes inattendues, mais qui, jusqu'au bout, vit. Voilà. Je voudrais dire cette présence que tu es, mais ne sais qu'est-ce qui c'est une grossière caricature. Les moments où ton corps devient souffrance, se tord, râle, crie, sans retenue. Les moments où tu dors, fatigue immense. Palimpseste de souvenirs indéchiffrables, fragiles, prêts à s'effriter dans la terre. Ceux où tu souris de ton visage enluminé de rides quand j'embrasse joyeusement la douceur duveteuse de tes joues. J'essaye de tracer ici les contours de ta nouvelle façon d'être vivante pour en imprégner le langage et l'ouvrir. Me rendre attentive et sensible aux indices, aux signes et odeurs, un geste, un regard. Me faire moins envahissante, harmoniser ma respiration à la délicatesse de ton souffle. Comme pour regarder une biche dans une clairière et m'en faire accepter, pour apprendre d'elle une autre façon de danser. Et depuis ces espaces humains variés, celui rationnel où je me situe encore, et le tien que je ne peux qu'imaginer de là où je suis, construire avec toi des temps partagés et un monde plus vivable pour chacune de nous, pour d'autres vivants avec nous. Un monde où nous avons nos places, un monde que nous enrichissons de nos présences. Quand nous nous regardons, en un silence attentif et paisible, peut-être deviens-tu un peu moi un peu toi. Nous sommes cette rencontre, cet instant se suffit. Il se développe, puis subsiste dans ma mémoire après que nous nous sommes quittés. Parfois, je me mets à penser qu'il subsiste tout aussi tangiblement dans ton corps, hors l'artifice de la mémoire, qu'il subsiste dans l'air, comme un parfum, et subsistera encore bien après ta mort et la mienne. Que ces éphémères rencontres donnent ancrage à nos existences comme la présence massive de montagnes indifférentes.
Merci. Elle est à vous, je me tais.
Bon appétit.
Je voudrais j'ai été étonnée par le violence, le mot violence. Parce que moi, j'ai pas du tout senti de la violence.
J'assume la subjectivité de mes propos par rapport à ça. Hein. C'est ma quatrième lecture.
Hein. Mais ça m'a étonnée parce que moi, j'ai des souvenirs de quelque chose de très sensible, amour, et aussi j'adore la manière de le dire, qui est très poétique et une façon de marronner aussi en dehors de la langue. Et voilà, je voulais savoir ce que tu en pensais, toi, Julie, de cette violence. Est-ce que tu l'aperçois aussi ?
Bon, moi, j'ai aucune objectivité sur mon écriture. Hein. Faut quand même pas abuser.
Non, mais le sujet est violent. Oui. Hein, le sujet, voilà. Mais la façon dont elle l'aborde est très doux et très juste. Moi, il semble aussi, c'est-à-dire que c'est pas mièvre non plus. Il y a des moments où c'est rude. Moi, je dirais rude, rêche, mais qu'elle arrive à pas être dans la violence dans sa façon de s'exprimer sur le sujet.
Et non, ça, mais moi j'entends le mot violence. Mais... Ben, c'est une situation hyper violente. Après, en tout cas, ce que j'ai essayé de faire, mais pas juste là, hein, ce que j'essaye de faire dans la vie, quoi, c'est d'essayer de pas être. D'essayer de. D'aller à la rencontre de l'autre, mais dans ce qu'il peut s'imaginer, de se mettre maladroitement à la place de l'autre, dans ce qui peut se passer, et c'est-à-dire de sortir des situations, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, mais des situations un peu caricaturales d'un côté ou de l'autre. Et là, je voulais surtout pas enfermer le personnage de Madeleine dans quelque chose. Donc j'ai essayé d'adoucir, ouais, de mettre beaucoup de tendresse et de me dire qu'est-ce qui se passerait si elle pouvait le lire et qu'est-ce qui se passerait si qu'en dirait une personne malade qui le lirait, et puis de rajouter de l'humour, mais c'était pas évident. Moi, j'aime bien l'humour dans la vie généralement, mais là c'était quand même pas évident. Alors après, il y avait d'autres exemples. Alice m'a trouvé un exemple d'un gars qui a écrit un écrit sur sa grand-mère, où c'est vraiment très drôle, où on voit sa grand-mère qui fait de ses frasques.
Mais bon, elle a pas Alzheimer, effectivement. Il y a quand même.
Ah, elle a quand même. Elle a l'air d'être un peu démente, quand même. Mais bon, c'était pas du tout le. Il y avait quand même une histoire de dérodage du temps. On pouvait pas faire l'économie de quelque chose d'un peu rude, quoi. Mais tant mieux si ça paraît pas trop violent dans la relation, s'il y a cette tendresse qui sort, parce que c'est quand même ça l'objet, de tâtonner dans la tendresse. Tâtonner la tendresse.
On a tourné souvent, longtemps, autour du mot tendresse pour le titre aussi. Et c'était difficile parce qu'il fallait pas avoir l'air mièvre sur un sujet comme ça aussi. Enfin, c'était compliqué, le titre. Comme c'est compliqué de choisir un extrait à lire, je trouve, parce qu'en fait, c'est toutes des capsules temporelles qui sont finalement très différentes au fil du parcours de la maladie. Et du coup...
Mais il y a quand même de l'humour. Enfin, d'autres... je sais que vous l'avez lu aussi beaucoup. Vous avez ri parfois, comme moi, je pense.
Un côté burlesque peut-être qui vient avec le par moment, je trouve. Moi, je dirais ce mot-là. Ouais.
Linette, burlesque.
Burlesque, je dirais pas.
Ouais, sur certaines
situations. Deux contre un. Pour aller.
Mais
d'autres. Moi, je rebondis surtout sur l'absence de mièvrerie pour dire des choses extrêmement, effectivement, une situation violente, mais beaucoup de poésie pour aborder les choses. Mais sans triche, quoi. Et cette recherche, j'aime bien le titre à tâtons, parce qu'on sent tout au long du livre une recherche permanente de trouver la communication et la beauté d'en trouver une forme différente. Mm-hmm. Ça m'a énormément touchée, et j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de pudeur pour apporter des choses quand même très, très intimes, très difficiles. Mm-hmm.
Mais après, est-ce que la violence, c'est sur... Pardon. Est-ce que c'est aussi des situations concrètes ? Ben, parce qu'il y a des situations logistiques, quoi, où ben, c'est pas marrant d'avoir sa mère qui chie dans sa culotte, quoi. Ben, c'est juste... C'est pas drôle, quoi.
Oui.
C'est sûr. C'est pas violent. Des situations... Ouais.
Je voulais juste te demander quelque chose, parce que j'ai pas lu le bouquin, mais je comprends pas la photo de la couverture. Je ne sais pas ce que c'est et ça ne me parle pas. Je ne sais pas si c'est du modelage. Je vous ai juste quelques explications.
Alors, j'ai amené une petite tête. En fait, la proposition des Colamboles, tu veux peut-être expliquer.
Vas-y, je commence par la maison d'édition. Oui, tu parles de ton choix.
Vas-y.
L'idée des éditions des Colamboles, c'est que dans chaque ouvrage, on entremêle un art visuel avec l'écriture. Mm-hmm. Voilà, pour ouvrir. Parce qu'on publie aussi des essais, notamment sur les essais, particulièrement. Je trouve que c'est intéressant parce que ça amène les gens à lire des essais, alors qu'ils n'y vont pas forcément. Et l'art fait un petit, un petit appel, où parfois on a des grands lecteurs d'essais qui du coup reviennent vers l'art, parce que l'art est aussi en déshérence, je trouve. Et sur le roman, et bien finalement, je trouve que ça amène beaucoup aussi, parce que dans le choix du dialogue avec un artiste, l'auteur peut choisir de dire encore autre chose que ce que ces mots ont dit. Donc Julie a choisi les sculptures de Pascal Coutan, et j'espère peut-être que tu vas l'expliquer toi, du coup, ton choix. Donc il y en a surtout des gros plans, en fait, au fil du livre, à différents moments, de temps en temps, on a des plans.
Donc c'est des très gros plans effectués par Denis, parce que la taille des sculptures, c'est ça.
Voilà. C'était technique. Hein.
En fait... Pascal, donc elle fait aussi des petites silhouettes, mais c'est toujours des toutes petites pièces. Alors j'excelle là parce que c'est ma tête à moi, mais
celle-là. Et du coup, voilà, on voit un peu le gros plan, le gros plan. Voilà.
Et à chaque fois, c'est soit des têtes, soit des silhouettes. Elle dit qu'elle fait des silhouettes de, elle veut sculpter des gens. Et c'est des personnes qui sont pas dans des expressions. Souffrante et torturée, mais où on voit qu'ils s'en sont quand même un peu pris dans la gueule, quoi. Et en fait, alors celle-là est pas si. Celles qu'on a choisies sont. Il y en a une qui est plus explosée que l'autre, et puis il y en a une très douce. Et en fait. Vous pourrez regarder avec précaution tout à l'heure, mais en fait, en fonction de comment est-ce qu'on la regarde, elle a une expression très changeante. Donc ça, c'était intéressant. Et puis j'aimais aussi que le travail de Pascal, elle soit dans quelque chose où la matière, même si c'est des toutes petites pièces, la matière est très visible. On voit quasiment comment elle l'a travaillée. Elle cherche pas du tout de la perfection. Elle cherche, c'est comme une rencontre, encore une fois, avec ses têtes qui émergent sous ses doigts. Elle dit qu'elle n'est pas sculptrice, qu'elle ne sait pas faire, qu'elle laisse les choses venir sous ses doigts. Et du coup, il y avait quelque chose d'une émotion par rapport à la matière et aux personnes dont il s'agissait, qui, pour moi, a rencontré un petit peu le propos du livre. On ne sait pas qui sont ces personnes. Alors, dans certaines de ces sculptures, on voit, par exemple, il y a toute une série où on voit bien que c'est des personnes qui sont des migrants, qui ont traversé certaines choses un peu rudes aussi dans la diversité de leur silhouette ou de leur visage. Là, c'était évidemment pas le propos. Mais on voulait aussi pouvoir que ça tende à l'abstraction. C'est-à-dire qu'en effet, on ne sait pas trop ce que c'est que ce truc-là, parce qu'on ne voulait pas que ça soit illustratif. Mmh. C'est pas, tiens, elle, c'est cette tête, c'est la mère, et cette tête, c'est la fille. C'est comme des plongées dans quelque chose où on ne sait plus trop justement ce que c'est. Est-ce que c'est encore un humain, pas un humain? Est-ce que c'est une oreille, pas une oreille?
Est-ce que c'est du grain de peau ou du grain de terre?
Est-ce que tu vas persévérer dans l'écrit ?
Ah bah oui, je ne sais pas si ça donnera d'autres ouvrages, mais en tout cas, ça, c'est sûr que ça persévère, ouais, ça c'est sûr.
C'était satisfaisant du coup, est-ce que c'était intimidant certainement, le fait d'être lu enfin ? Et satisfaisant. Enfin, est-ce que ça te conforte dans ta volonté d'écrire ?
Alors, c'est curieusement pas intimidant. C'est au contraire hyper réjouissant et simple, parce que à chaque fois que quelqu'un vient en ayant lu ce livre, ça devient un autre livre. Et cette espèce de traversée hyper solitaire de la maladie et de l'écriture, tout d'un coup, devient quelque chose qui fait effervescence, puisque chaque nouveau lecteur y amène finalement un nouveau regard et que ça se mêle à des choses qui sont intimes, parce que c'est un sujet qui vient racler un peu dans des endroits qui sont pas en effet toujours très réjouissants, mais qui nous touchent peut-être tous d'une façon ou d'une autre. Et donc finalement, les retours sont toujours incarnés et plein de justesse et d'émotion. Et voilà, c'est comme si ce livre n'était plus mon livre, que j'avais juste été une passeuse, et que maintenant, eh ben, ça devenait plein de livres différents. Donc ça, c'est hyper réjouissant.
Ça, c'est chouette.
Et puis ça a été aussi une chouette aventure de travailler beaucoup avec Alice, tout le fignolage de l'écriture, et puis que ça devienne un objet, un bel objet aussi. C'est une fête, voilà, avec toute la bande des Colamboles. C'est très chouette. C'est aussi chouette que ça soit ici, ben, que ça soit que ça se manifeste ici. C'est un produit local.
Je vous propose de rester pour échanger de manière plus formelle pour ceux qui le souhaitent.